Donc je voudrais revenir sur les termes qu'on utilise et qui sont importants, et peut-être quelquefois qu'on prend pour acquis, notamment sur le terme de présence, que évidemment j'utilise beaucoup ici comme équivalent de pleine conscience. Donc qu'est-ce que vraiment ça veut dire présence et comment est-ce qu'on peut le comprendre? Donc on s'engage dans des réflexions assez subtiles pour essayer d'exprimer un vécu particulier et d'une certaine manière un vécu particulier qui commence justement où les mots se terminent. Voilà pourquoi c'est difficile d'en parler, mais on va quand même essayer d'aborder un petit peu ceci pour nous faire sentir ce que peut signifier pleine conscience ou présence. Donc ici je prends le terme présence comme évocation et peut se rendre compte que le terme présence tout d'abord est lié à la notion de temps. Présence liée à présent. Et donc on comprend dans un premier temps que ça veut dire être présent, ça veut dire ne pas être perdu dans le passé et dans le futur. Et ceci, même si c'est une approximation, elle est extrêmement utile parce que le passé et le futur, c'est des zones dans lesquelles on se perd qui sont très importantes. On peut dire que sans parler de pourcentage, mais une grande partie des manières que nous avons de nous perdre, c'est en s'attachant à des contenus qui portent sur le passé ou sur le futur. Donc lorsqu'on parle de présence, ce qui fait qu'on essaie déjà de ne pas cultiver ces contenus du passé, du présent, du passé et du futur, eh bien déjà, on se libère, on se dégage déjà de beaucoup de choses qui pourraient nous encombrer. Mais maintenant, évidemment, passé, on peut s'imaginer des souvenirs, des images d'un autre temps, d'un autre lieu. Futur de la même manière, des images d'un autre temps, la semaine prochaine, l'année prochaine, ou d'un autre lieu. Ceci est assez manifeste. Il n'est pas difficile de se rendre compte lorsque on est intéressé ou perdu dans des contenus qui portent sur d'autres lieux et d'autres temps. Si ce n'était que dans ce cas-là qu'on se perdait dans le passé et le futur, alors ceci, on s'en rendrait compte assez rapidement. Mais il y a des moyens plus subtils ou des situations plus subtiles dans lesquels on se perd et qui aussi ont trait au futur et au passé. Et c'est notamment ce qui touche au désir, à l'aversion, on verra la confusion plus loin. Parce que lorsque on a comme futur l'expérience présente mais améliorée, c'est ce que je vise. J'ai une expérience de calme, mais je me rends compte qu'elle pourrait être un tout petit peu plus calme. Donc cette anticipation, elle me porte déjà vers le futur. Elle prend l'image, elle prend un vécu que j'ai, un vécu présent, on pourrait dire, et puis elle en fait un imaginaire que j'essaie d'atteindre. Donc tout désir de transformation, d'amélioration, d'interférence avec l'expérience présente est toujours dans l'anticipation et elle met en jeu l'imaginaire, c'est-à-dire l'expérience, le vécu présent que j'imagine un peu différemment, en général mieux, ou ça pourrait être moins bien si je crains qu'il se passe quelque chose. Je sens, j'ai une expérience, un certain vécu, et peut-être que j'aurais peur que ce vécu s'intensifie. Ça arrive quelquefois avec les douleurs corporelles. On sent quelque chose, on se dit, oulala, ça va revenir. Donc là, l'anticipation est vers quelque chose de pas souhaitable, mais au contraire, envers lequel on a une certaine peur. Et donc ceci nous place aussi dans le futur. Donc pas simplement par rapport à des images qui porteraient sur le passé ou sur le futur, mais aussi une attitude ou une image, mais qui prend l'apparence de l'expérience présente, mais légèrement différente. Donc elle est beaucoup plus difficile à reconnaître. On a l'impression qu'on est dans le processus méditatif et quand on essaye d'améliorer la méditation, on pourrait dire cette bonne guerre, on essaye de vraiment être dans la méditation, d'aider le processus, si on veut. Et néanmoins, dans cette attitude de vouloir aider, dans cette anticipation, on voudrait pousser un petit peu les choses, un peu comme si on voulait aider une fleur à s'épanouir et puis on tire un peu sur les pétales pour favoriser un peu le processus. Donc de la même manière, quelquefois on veut favoriser le développement d'une expérience, l'approfondissement du calme ou d'une clarté dans l'expérience, et ceci nous place aussi dans la temporalité et dans le futur. Donc la notion de passé et de futur ne s'exprime pas uniquement par des images manifestes qui portent sur le passé et sur le futur. Donc tout désir ou aversion implique cette notion de temporalité, et même la confusion, on pourra le voir par la suite. Parce que si je m'attache à une expérience présente, ça veut aussi dire d'une certaine manière que je veux la garder pour l'instant futur. Il y a là une sorte d'anticipation, je veux que ça continue. Donc il y a dans l'attachement à une expérience présente, il y a déjà une transformation de l'expérience en un concept ou une image que j'essaye de saisir. Parce que l'expérience elle-même, je ne peux pas la saisir. Je vous donne un exemple un peu plus concret, parce qu'on est dans des choses assez abstraites. S'il y a un beau coucher de soleil et que je le regarde, j'ai aucun moyen de le garder. C'est pas possible, je peux pas arrêter le soleil, c'est pas possible. Il se transforme d'instant en instant, il va disparaître. La manière que j'ai de le garder, c'est par le souvenir, c'est-à-dire je fais une transposition de l'expérience en souvenir, c'est-à-dire une image mentale dans ce cas-là, et c'est ce que je peux garder. L'expérience, je ne peux pas la garder. Si on pouvait garder l'expérience, alors on pourrait revivre le passé. Mais c'est bien parce que ce n'est pas l'expérience qu'on peut garder, mais seulement une sorte de copie, pas tout à fait fidèle, on ne peut pas revivre réellement le passé. Donc pour garder quelque chose, je dois un vécu, je dois lui substituer une image, et c'est ce que je garde dans la mémoire, par exemple. Donc quand on veut s'attacher à une expérience présente, agréable, qui nous semble claire ou judicieuse ou bonne, eh bien, pour pouvoir la garder, on la transpose déjà en une image, en un concept, et c'est ce qu'on essaie de garder. Et dans cette saisie de cette image, de cette transposition, on a quitté le vécu lui-même, pour rester avec une transposition. On a quitté le repas qu'on est en train de manger, et on est en train de manger le menu. C'est pas la même chose. Donc dès qu'il y a attachement ou désir, on est déjà dans une transposition, on est déjà dans la temporalité et dans l'anticipation de quelque chose de futur. Donc lorsqu'on parle de présent, présence et qui évoque le présent, ceci est une manière judicieuse de s'exprimer parce que ça nous permet de nous rendre compte assez rapidement, enfin plus ou moins rapidement d'ailleurs, de tous ces contenus qui manifestement portent sur le passé et sur le futur. Nouveau souci que je pourrais avoir ou inquiétude pour ce que je dois faire la semaine prochaine, ceci peut se reconnaître rapidement, donc ceci me permet de ne pas y adhérer ou m'y accrocher. Donc il y a aussi cette manière plus subtile qui prend l'image de l'expérience, non pas l'expérience elle-même, et qui s'attache à l'expérience ou l'expérience améliorée. Mais maintenant, il ne faudrait pas croire que lorsqu'on parle de présent, et c'est souvent le danger qui vient de la manière dont on s'exprime, c'est que tout d'un coup, on favoriserait dans l'instance de la temporalité, on a passé, futur et présent, qu'on deviendrait un club qui, je ne sais pas moi, aura un culte au présent. Et voilà, on a un parti pris contre le passé et le futur, mais le présent, ça c'est vraiment, si on le met sur notre altar, notre autel de notre méditation, c'est le présent. Parce que de vouloir saisir quelque chose aussi comme présent, on reste complètement lié à la temporalité. On n'a pas besoin dans nos expériences méditatives, dans notre vécu, de rajouter une étiquette, c'est présent, c'est présent. Ça vaut à l'expérience, ça ne rajoute rien. Quand on est vraiment dans l'expérience, dans un vécu, de manière claire Il n'y a pas de notion de temporalité. Si on est juste dans l'audition d'un son, voilà, il n'y a pas de, c'est ni au passé, ni au futur, ni au présent. Il y a juste simplement l'audition du son sans qu'un concept soit rajouté, qui est un concept qui appartient à la temporalité. Donc, ce n'est pas que tout d'un coup, on va favoriser le présent comme quelque chose qui aurait une valeur en soi, mais c'est une manière de parler qui nous permet déjà de, on pourrait dire, débroussailler un petit peu les expériences pour ne pas confondre ce qui est de l'ordre du vécu et ce qui est de l'ordre de l'imaginer ou du souvenir. Donc l'expérience ou le vécu, quand il y a présence, quand il y a pleine conscience, est toujours dégagé de la temporalité. Et ça, c'est une caractéristique qui est assez importante et je crois qui est aussi frappante. Lorsqu'il y a vraiment présence, lorsqu'il y a vraiment pleine conscience, on se rend compte qu'on est sorti du cadre de la temporalité. On n'est pas sorti d'une réalité que serait la temporalité. On est sorti du cadre de la temporalité qu'en général on impose à nos vécus. On organise nos vécus dans le cadre de la temporalité, qui est une manière judicieuse, habile, utile, mais qui n'est pas une réalité saisissable. Et ça, c'est quelque chose, évidemment, d'assez étonnant. Dès qu'on s'approche du vécu, dans cette intimité-là, qui est étonnant, mais qui est une constante dans toute expérience intérieure, de toute tradition spirituelle. Ce n'est pas quelque chose qui est en propre au bouddhisme, ni même d'ailleurs aux traditions spirituelles. Je vous cite saint Augustin qui exprimait ceci de manière tellement, tellement claire. Dans ses confessions, il y a beaucoup de pages qui traitent de la temporalité. Il disait, si personne me demande, je sais, à propos de la temporalité. Mais dès qu'on me demande, je ne sais plus. Il disait, le passé, ça n'existe plus, le futur, ça n'existe pas encore, et entre les deux, il y a l'espace pour rien. Il dit, Dieu aide-moi. Moi, j'y perds mon latin. Il parlait en latin, saint Augustin. Donc voilà. Donc il s'y retrouve plus. Et cette manière qu'on aurait de vouloir saisir la temporalité comme quelque chose qui aurait une existence concrète, dès qu'on la questionne, on se rend compte qu'on ne peut pas la saisir. C'est une manière, un cadre qu'on donne à nos expériences, à nouveau un cadre judicieux, un cadre utile, important. Mais quand on en fait une réalité qui serait ce dans quoi on se déplace, dans la temporalité, à ce moment-là, on s'enferme dans ce cadre qu'on prend pour la réalité. Einstein lui-même disait le temps, ça n'existe pas. On va partir la science contemporaine, d'ailleurs que je connais assez mal, mais on aurait beaucoup d'exemples comme ceci, où Maître Eckhart, le grand mystique, il disait qu'il faut, pour être dans l'expérience intérieure, il faut se dégager de la temporalité, de la multiplicité, de la personnalité. Les mêmes sens de la temporalité, quand on s'y attache comme cadre de référence de nos expériences, à nouveau c'est utile, mais tout d'un coup ça nous voile et ça empêche l'intimité à l'expérience elle-même. Donc un aspect important qu'il ne s'agit pas de croire qu'on doit mettre une étiquette sur toutes les expériences en les appelant présentes et que ceci représenterait une sorte d'intérêt ou de gain. Au contraire, ça nous éloigne de l'intimité à l'expérience elle-même. Et nouveau, on peut explorer ceci de manière assez simple dans l'audition ou dans la vision comme nous l'avons fait cet après-midi et autres, de tout d'un coup d'être simplement dans l'expérience et on se rend compte que la notion de temps n'entre pas, non pas parce qu'on l'a rejetée, mais simplement parce qu'on ne l'y a pas amenée. Ce n'est pas une négation de la temporalité, c'est simplement qu'on ne l'utilise pas comme cadre de référence à ce moment-là. On reste dans quelque chose de plus dépouillé. Donc on pourrait se poser une question, référence un peu à ce qui a été demandé hier et aussi dans les groupes aujourd'hui, c'est dans le fond, est-ce que c'est possible d'être perdu si on n'est pas dans le passé et pas dans le futur? Est-ce qu'on peut se perdre dans le présent? Et si c'est possible, comment est-ce qu'on peut se perdre dans le présent? Dans le futur, dans le passé, on le reconnaît assez simplement, mais comment est-ce qu'on pourrait se perdre dans le présent? Donc il faudrait prendre ici la deuxième opposition au terme de présence. Tout d'abord, présent, j'ai dit que ça s'opposait à futur et passé, mais présence s'oppose aussi à absence. Donc, si on est absent, on n'est pas présent. Mais qu'est-ce que veut dire absence? À nouveau, pour essayer de comprendre le sens qu'on donne à ce terme présence dans la méditation ou pleine conscience. Donc, absence veut dire être hors de. Être absent, c'est être hors de. Alors, hors de quoi, on peut se demander. Si être absent dans notre méditation, ça voulait dire être hors de la salle de méditation, ah, il n'y a pas beaucoup d'absence quand on médite, parce qu'il y a très peu de gens qui sortent, donc ça voudrait dire que c'est extraordinaire, tout le monde est parfaitement là. Donc ce n'est pas ce que ça veut dire, ça ne veut pas dire être absent du lieu où on se trouve. Donc qu'est-ce que veut dire absence et être hors de quoi? Donc là, il s'agit d'explorer un peu plus loin qu'est-ce qu'on appelle vécu. On parle de ce vécu à chaque instant, expérience ou vécu. Qu'est-ce qui se passe dans un vécu, quel qu'il soit, de l'audition d'un son, l'expérience d'une sensation corporelle, même d'une pensée, de l'imaginaire, même si c'est un peu plus flou, mais qu'est-ce qu'on veut dire par vécu? Donc, vécu, ce n'est pas un objet, la table, le coussin, là, ce n'est pas un vécu. Un vécu, c'est une expérience, ça veut dire c'est une conscience de quelque chose. Tout vécu veut dire conscience de quelque chose. Ce serait bizarre peut-être de dire qu'un sommeil profond est un vécu. On pourrait toujours employer ce terme, mais ça semblerait quand même plus réservé à quelque chose quand on est conscient d'un certain contenu, conscient d'un son, conscient d'une forme, d'un goût, etc. Donc on parlerait de vécu, conscient d'une émotion. Donc vécu est conscience de quelque chose. Donc il y a d'une certaine manière deux faces à cette expérience-là. Il y a ce quelque chose dont on est conscient et il y a conscience. Conscience de quelque chose. Donc dans cette conscience de quelque chose, lors de tout vécu, pour que ce vécu soit de l'ordre de quelque chose qui soit réellement éprouvé, il faut le contenu de quelque chose, la conscience de ce vécu, mais en même temps que la conscience, elle soit consciente d'elle-même. C'est-à-dire qu'il faut que on ait conscience qu'il se passe quelque chose, que j'ai conscience d'entendre. Parce que si on entendait sans avoir conscience d'entendre, alors c'est comme si on n'entendait pas. Ça serait une expérience à laquelle on n'aurait pas accès, qui se perdrait tout de suite. Le philosophe Alain disait, savoir, c'est savoir qu'on sait. On comprend bien ce que ça veut dire. Si on ne savait pas qu'on sait, à ce moment-là, ce savoir serait inutile. Le terme savoir est un peu trop lourd dans ce cas-là. On pourrait dire savoir, c'est avoir conscience de savoir. Entendre, c'est avoir conscience d'entendre. Voir, c'est avoir conscience de voir. Donc il y a toujours à la fois la conscience est consciente de l'expérience et à la fois du vécu. Maintenant, cette conscience qui est conscience de soi dans l'expérience, conscience de soi dans l'expérience, c'est ce qu'on appelle présence. Il y a conscience d'un vécu et il y a conscience de soi en même temps. Ces deux aspects-là. La présence, c'est la conscience de soi dans toute expérience. Et je crois qu'on comprend bien. Je vais quand même essayer de le préciser un petit peu. Cette conscience de soi, c'est pas une réflexion. Se dire, tiens, ah voilà, j'entends. Si j'entends, il me dit, tiens, voilà, j'entends quelque chose. Là, on est déjà dans une sorte de pensée, dans une sorte d'élaboration sur ce qui se passe. Je vais en tirer quelque chose d'autre. Cette conscience de soi dans toute expérience, c'est comme la flamme d'une bougie qui s'éclaire elle-même. C'est la nature de la conscience que d'être conscience d'elle-même. Elle ne peut pas être voilée à elle-même. De même que, on ne peut pas dire que que la flamme d'une bougie pourrait ne pas être éclairée par sa propre luminosité. Donc, ça ne demande pas une sorte d'effort, une sorte de retour sur soi-même, comme si on allait s'observer. Si on fait ceci, il y a un retour sur soi-même, on s'observe, ça veut dire qu'on se traite comme un objet, tout d'un coup, on en fait une sorte d'autre contenu. Et ce n'est pas ce dont il s'agit. Il y a donc dans l'expérience de la simplicité, à nouveau, je prends l'audition parce que c'est assez simple, dans l'audition, il y a ce vécu d'un son, et puis la conscience aussi d'entendre. Donc on fait une différence ici entre la conscience du son et la conscience d'entendre un son. Cette conscience d'entendre un son, c'est ce qu'on appelle présence. Conscience de la forme, des couleurs, du coucher de soleil, et conscience de voir. Il y a là quelque chose dans la qualité de présence, dans la qualité du vécu, qui est une nuance importante. Sartre disait, toute existence consciente existe comme conscience d'exister. Et ça me semble intéressant. Alors, je ne sais pas si toutes les existences conscientes existent comme conscience d'exister, mais dans la méditation, c'est bien ça, cette conscience d'exister. Ce n'est pas tellement la conscience d'avoir une douleur dans le genou qui est intéressant, mais c'est cette conscience d'exister dans cette expérience-là, dans cette conscience d'une sensation corporelle, dans la conscience d'une émotion, mais c'est cette conscience d'exister, donc conscience de soi, à nouveau qu'on appelle présence ou qu'on appelle pleine conscience. Donc peut-être qu'on comprend un petit peu ce qu'il y a dans un vécu, il y a le contenu, cette conscience qui perçoit, prend conscience de ce son, de cette forme, de cette émotion, de cette pensée, de cet imaginaire, et puis en même temps elle est consciente d'elle-même, elle n'est pas oublieuse d'elle-même. Mais maintenant, parfois, parce qu'il y a un grand intérêt qui est donné au contenu, à ce moment-là, cette conscience de soi est extrêmement faible. Si il y a une fascination pour le contenu de l'expérience, la conscience de soi, elle est voilée par cette importance qui est donnée au contenu. Et à ce moment-là, c'est un petit peu comme si le miroir se prenait pour l'image qu'il reflète. Donc là, tout d'un coup, l'expérience est plus que ce son que j'entends et plus que cette émotion que j'ai. Il y a plus cette claire conscience de soi dans cette expérience-là. Donc si on se demande maintenant où est-ce qu'on peut se perdre, où est-ce qu'on peut se perdre dans le présent, à chaque instant, il y a un vécu. Quelques rares situations où il pourrait y avoir juste une conscience pure, c'est une possibilité sans qu'il y ait un contenu particulier, mais dans le fond c'est quand même assez rare. Donc à chaque instant de notre vécu, il y a toujours quelque chose qui est éprouvé, qui est vu, qui est senti. Il y a toujours ceci. Donc où est-ce qu'on peut se cacher ? La seule manière de se cacher, c'est de se cacher dans le contenu de l'expérience. Et c'est toujours la même chose. On se cache dans le contenu de l'expérience. On pourrait imaginer un joueur d'échecs ou une joueuse d'échecs complètement prise par le jeu, qui n'est pas présent à soi parce qu'il y a une fascination pour le jeu, ici sûrement anticipation des coups à jouer, etc. Vous voyez, donc l'intérêt est tellement fort donné au contenu que cette présence à soi dans l'expérience, elle tend à se voiler immensément. Donc on peut très bien ne pas être dans le passé ni dans le futur et ne pas être présent ou pleinement conscient parce que trop d'importance est donnée au contenu de l'expérience. Et c'est ce qui se passe dans la concentration. Le joueur d'échecs peut être extrêmement concentré même s'il n'est pas dans l'anticipation. Un joueur de tennis peut être concentré, une joueuse aussi, il y a beaucoup de situations d'ailleurs où on peut être concentré. Cette concentration, c'est l'intérêt qui est donné au contenu qui est visé et non pas à la présence. Il y a une différence qualitative importante, une différence d'intérêt qui est importante. Et on sait très bien que par moment, il sera fondamental de donner l'importance au contenu. Si je dois réfléchir, résoudre un problème mathématique ou de comptabilité ou d'ordinateur, etc., je vais m'y donner complètement. Je vais essayer à ce moment-là de donner toute mon énergie pour comprendre le problème et peut-être le résoudre. Donc là, il y a l'intérêt donné au contenu de l'expérience. Quand on parle de se perdre dans le passé et dans le futur, c'est exactement la même chose que dans le présent. Parce que la pensée du passé ou le souvenir, il surgit dans le présent, il ne surgit pas au passé. La pensée ou l'anticipation de la semaine prochaine, elle surgit dans cet instant-là. Donc, quand je me perds dans le passé, dans le futur, je me perds dans le contenu de la pensée présente qui a pour contenu le passé ou qui a pour contenu le futur. C'est la même manière que de me perdre si je suis perdu dans le jeu d'échecs ou dans toute autre chose. Je ne peux pas aller dans le passé pour me perdre. On ne peut pas se réfugier dans le passé. On a essayé cet après-midi de faire des choses toutes simples au passé. On n'est pas arrivé, ni d'ailleurs au futur. Donc il est possible de ne pas être perdu ni dans le passé ni dans le futur et pourtant ne pas être présent dans le sens de présence parce que simplement on est perdu dans le contenu de l'expérience. Et Maître Eckhart, pour reciter ce grand mystique chrétien, il exprimait ceci d'une manière intéressante. Alors, je le cite de mémoire, je ne suis pas sûr si c'est exactement les mots mêmes qu'il a utilisés, bien qu'il parle évidemment l'allemand. Eh bien, il dit que quand ce que les sens vont chercher à l'extérieur retourne à son origine, il est un pouvoir par lequel tout devient un. Vous voyez, donc, quand ce que les sens vont chercher à l'extérieur, si et moi j'entends un son, l'audition d'un son, je vais chercher, je m'intéresse à ce son-là, au contenu, quand ceci retourne à son origine, c'est-à-dire à la conscience, il est un pouvoir par lequel tout devient un. On a exactement ce mouvement-là. On revient sur la conscience d'entendre plutôt que sur le son, sur la conscience de voir, sur la conscience d'éprouver une émotion. Et tout d'un coup, il y a un pouvoir par lequel tout devient un. Donc c'est bien cette pleine conscience, si vous voulez, où il y a nécessairement un sentiment de plénitude et d'absence de limite. Maintenant, on peut se demander, dans le cas de, comme c'était fait, dans le cas de l'attention, qu'est-ce qui se passe? On pourrait dire aussi concentration, mais prenons le terme attention. Alors, attention, bon, ici, évidemment, on donne un sens au terme, un sens qui nous convient pour comprendre notre pratique. Je ne sais pas si ces termes sont toujours définis de cette manière-là ou si toutes les définitions sont en accord. Il y a certainement différents points de vue, mais l'attention, c'est l'orientation de la conscience vers un contenu particulier. Donc, l'attention vise quelque chose. On porte son attention sur, vers. Donc, elle vise pas elle-même, elle vise un contenu particulier. Évidemment, une capacité extrêmement importante. On sait bien quand elle fait défaut combien c'est problématique. Mais ce qui l'intéresse, c'est le contenu et non pas la présence à soi. Peut dire que si on voulait porter l'attention à la présence à soi, on ferait un problème. Parce qu'à ce moment-là, on objectifierait la présence à soi ou la conscience. Et évidemment, la conscience n'est pas un objet et on la raterait. Donc on ne peut pas faire une intention. On a parlé un peu de ceci aussi, comment ça ne peut pas être une intention parce qu'on en ferait un objet d'une certaine visée. Et la grande difficulté lorsqu'on parle de la conscience, cette qualité d'être conscient d'un vécu, la grande difficulté, c'est que comme nous avons un vocabulaire qui est fait pour les choses, on a tendance à réduire chaque discussion sur la conscience à des choses. Et puis, de nos goûts, on s'enferme dans des choses qui deviennent confuses, qui deviennent un peu absurdes, simplement parce qu'on a réduit la conscience à une chose. On peut pas la réduire à une chose, mais comme on connaît bien les choses, donc on essaie de la réduire à une chose. C'est cette histoire que j'ai déjà racontée plusieurs fois, ce personnage qui cherche la clé de sa voiture sous un réverbère, parce qu'il a perdu la clé de sa voiture, et quand un passant vient pour l'aider à trouver la clé de sa voiture, au bout d'un moment, il lui demande, mais dans le fond, où il a perdu sa clé? Il dit, je l'ai perdue dans l'ombre. Il dit, mais alors pourquoi vous la cherchez sous le réverbère? Il dit, ben, parce que c'est là qu'il y a la lumière. Eh bien, on est un peu dans la même chose avec la conscience. On en fait un objet parce qu'on sait parler des objets, mais la conscience, on ne sait pas l'aborder sans la transformer en un objet. Kant, il disait, on ne saurait connaître comme un objet ce qui permet de connaître les objets. Ne saurait connaître comme un objet ce qui permet de connaître les objets. Voilà. Bon, pour lui, c'était pas connaissable. Maintenant, il faudrait voir les termes. Mais c'est pour ceci. Donc, pour revenir à l'intention ou l'attention, l'attention, elle ne va pas porter sur la présence, parce qu'on va l'objectifier, mais dans l'expérience elle-même, de l'audition, de la vision, etc., ce qui va simplement être fait, c'est ne pas s'accrocher à la notion qui est liée au son, j'entends la voiture par exemple, ou le son de l'oiseau, le chant de l'oiseau, etc., pour revenir plus proche de l'expérience elle-même, et à ce moment-là, naturellement, il y a cette conscience de soi dans l'expérience. Je vais revenir un peu sur cet aspect-là, que je viens de traiter très rapidement. Prenons un exemple assez concret de la respiration, dont on parle souvent en méditation, de la respiration. Voilà, alors on peut évidemment diriger son attention vers la respiration, ça on le comprend bien. Et peut-être même que c'est aussi parfois une manière judicieuse d'être moins dissipé et de rassembler sa conscience dans un type de vécu particulier. Ici, lié à la respiration. Donc, lorsqu'on va. On peut prendre les sensations corporelles qui sont laissées à l'entrée des narines par le va-et-vient du souffle. Et donc là, ce qui m'intéresse, ce n'est plus la respiration dans un sens de processus. Parce que si j'imagine l'air venant et entrant, je suis dans l'imaginaire. D'accord? C'était peut-être un premier temps qui m'a aidé à être moins dissipé. Mais maintenant, ce qui m'intéresse, c'est les sensations corporelles qui sont là à chaque instant, et il y a mon attention qui est dirigée dans cette zone-là, il y a certainement une vague image, ou peut-être une précise image de cette zone-là, et puis peut-être même certains noms pour les sensations, brûlures, etc. Donc là, l'attention, elle aide mon esprit à ne pas être dissipé, et puis à un moment donné, tout d'un coup, lorsque ce contact, cette intimité à l'expérience est claire, il n'y a plus besoin de cette attention, il y a cette expérience-là, cette simple conscience de la sensation de brûlure et autres, même qui ne serait pas appelée brûlure. Donc lentement, on a passé de l'intention qui nous a déposé, pour ainsi dire, sur un vécu, et le vécu, tout d'un coup, devient lui-même sa propre lumière. Voilà, c'est un peu mystique ça, mais ça veut dire que chaque vécu est conscience de quelque chose. On n'a pas besoin d'amener la conscience dans un vécu, parce que le vécu, il est déjà conscience de quelque chose. Si j'amène mon attention sur l'abdomen pour être conscient de ceci, alors on se rend bien compte, il y a une intention, l'image de l'abdomen, etc. Mais dans le fond, les sensations dans l'abdomen, ce n'est pas mon attention là, dans ma tête, qui vient et qui éclaire cette zone-là. C'est simplement que tout d'un coup, il y a la conscience qui est là, dans ce vécu, qui se révèle. Simplement, j'ai évité toute autre expérience. Je prends un exemple, on va voir si ça joue. Si j'imagine que quelqu'un devrait m'amener à la maison d'un ami le soir, et cette personne prend une lampe de poche et me guide jusqu'à la maison de cette personne. Mais la maison de cette personne est déjà illuminée. Donc, je n'ai pas besoin de la lampe de poche de cette personne qui m'a amené. Il y a la lumière. Mais c'est un peu la même chose. L'attention nous aide à nous diriger dans un endroit, mais lorsqu'on touche cet endroit, il est déjà conscient parce que tout vécu est conscience de quelque chose. Donc ce n'est pas la conscience de quelque part d'autre que je vais amener dans une sensation, parce que je ne vois pas comment ça se ferait, mais tout d'un coup c'est le fait d'être pas intéressé, dissipé par d'autres expériences, pour tout d'un coup laisser cette sensation corporelle-là s'éclairer elle-même, donc être consciente d'elle-même. De la même manière dans l'audition. Je reprends cet exemple-là aussi parce qu'il est assez facile à explorer. Donc si j'essaye d'explorer qu'est-ce que veut dire la pleine conscience ou la présence dans le cas de l'audition d'un son, alors imagine qu'il y a des sons présents. Alors d'abord, imaginons un son un peu répétitif parce que ça sera plus simple que de se diriger son attention constamment. Donc il y a un son répétitif ou un tracteur qui passe lentement. Donc tout d'abord, il va y avoir une attention qui va aller vers l'origine du son. Voilà, si le tracteur il passe sur la route là-bas, je sens bien que mon attention se dirige vers. Mais évidemment, mon attention, elle ne peut pas sortir de mon organisme. Ce n'est pas mon attention qui va se promener vers le tracteur. Là-bas, il dit, attends, une minute, c'est quoi le son que tu fais? L'attention, c'est simplement, d'une certaine manière, peut-être le fait d'amener plus d'énergie, de conscience vers les oreilles qui me permettent d'entendre. Mais là, il y a une sorte de choix. Donc, je suis plus intéressé par les sensations corporelles et toute autre expérience. Je dirige mon attention, je rassemble la conscience vers cette expérience auditive. Donc tout d'un coup, j'entends le tracteur. Et puis, voilà, j'ai compris, j'entends le tracteur, mais enfin, relativement peu intéressant. Et puis, je commence à m'intéresser au son qui est entendu. Alors, il y a ce son, évidemment, assez inimitable du tracteur. Et plus je me dispose à l'écoute de ceci, plus cette expérience va devenir dans l'unité, et à un moment donné, ce qui va se révéler, c'est plus le son du tracteur, c'est une conscience auditive, naturellement, par l'intérêt que j'ai amené à l'expérience elle-même, et non pas à son interprétation. Ça ne m'a pas vraiment intéressé de savoir quel type de tracteur c'est, mais c'est cette intimité à l'expérience elle-même, justement, par choix d'un désintérêt quant à en faire quelque chose, une signification, tiens, c'est telle et telle heure, peut-être qu'on amène le lait à la laiterie, tout ce qu'on pourrait raconter. Ceci ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'être le plus proche possible, dans la plus grande intimité, à l'expérience auditive elle-même. Et là, ce qui est révélé, c'est la conscience auditive. Donc il y a là cette présence, il y a pleine conscience. Le son n'a pas disparu, il est là dans ce vécu, mais l'interprétation, elle a disparu. Je dois dire que à ce moment-là, le son m'intéresse peu. Ce qui me fascine, c'est cette conscience de soi dans cette expérience-là, hein, qui révèle quelque chose dans l'intimité du vécu. Comment un vécu surgit dans ce cadre-là? Donc la manière pour nous d'explorer ceci, ce n'est pas de faire la chasse au contenu, ou de se battre, c'est en se disposant d'une certaine manière pour être le plus proche de l'expérience possible. On a l'impression qu'on est proche, on a une sorte de distance, je me rends bien compte, le tracteur il est là-bas, j'écoute, je mets mon attention sur l'audition, il y a toute une construction, et puis lentement, j'ai l'impression que tout d'un coup, il n'y a plus que l'audition, il n'y a rien d'autre. Le monde se résume à cette expérience auditive où il y a pleinement conscience de ceci. Simplement par disponibilité et non pas par une sorte de lutte faite pour éliminer toute autre chose. Mais je ne m'y intéresse pas. En général, nous avons besoin dans la vie quotidienne de nous intéresser à ce que signifient les expériences. On doit interpréter les vécus pour vivre, pour nous déplacer, pour être efficace, mais dans la manière la plus simple, même dans la vie quotidienne. Je ne sais pas, se faire à manger, s'habiller, se déplacer, on a besoin d'interpréter les vécus. Et on ne va pas l'oublier, ce n'est pas du tout ce qui nous intéresse, mais c'est de revenir à quelque chose de plus intime, ce qui fait qu'on pourra ensuite avoir aussi cette sensibilité. On pourrait dire même, dans le déplacement, on a exploré un peu ceci dans la marche, hein, on pourrait avoir cette qualité-là dans le déplacement. Si je vais ici, d'ici à la laiterie, je ne sais pas, il doit y en avoir une en Gruyère, à Charmel, à une laiterie, je vais à la laiterie, je n'ai pas besoin constamment me dire je vais à la laiterie, je vais à la laiterie. À un moment donné, je me mets en mouvement, on suppose que je sais où elle se trouve, et puis je suis totalement là, dans ce vécu, dans cette présence, en mouvement, sans qu'il y ait besoin toujours de l'interpréter. Je ne vais pas oublier mon objectif. Donc on pourra, par la pratique aussi, c'est quand même assez souhaitable, avoir une qualité de présence dans l'activité. Mais si on l'explore ici dans une sorte de vivarium où on est bien protégé, il n'y a pas grand-chose, c'est pour pouvoir sentir ou développer cette sensibilité afin qu'elle puisse aussi informer nos activités quotidiennes. Non pas qu'on va rentrer à la maison et puis on va passer nos journées assis, en marchant, parce qu'on ne peut plus rien faire. Il ne s'agit pas de ça. C'est juste le fait que on reste attaché à l'anticipation, bien au-delà de ce qui est nécessaire. J'ai besoin d'anticiper que je vais à la laiterie quand j'ai décidé d'y aller, que je dois y aller. Mais ensuite, je n'ai pas besoin constamment de garder cet objectif-là qui pourrait motiver une marche trop rapide, précipitée. Il faut que j'atteigne la laiterie, pas avant qu'elle ferme, même, il faut que je l'atteigne. Alors que si tout d'un coup je me dispose à ce qui se passe dans l'instant, je pourrais marcher, arriver à la laiterie sans avoir été toujours dans l'anticipation. Il n'y a pas besoin de garder ceci. Voilà, si vous voulez, quelques remarques pour essayer de dire un peu pourquoi on utilise présence comme équivalence ici à pleine conscience et cette simplicité, ce retour à la simplicité dans l'expérience.